Bonjour à tous et bienvenue. C'est l'émission Voix et Services du lundi 18 décembre qui est commencée. Nous sommes là pour la première heure de cette émission. Nous, c'est Maurice Bolduc en régie. Et autour de la table, c'est Franceline Vieuxviard et Serge Hamelin. Et celui qui vous parle, c'est Roger Roy. Franceline,
qu'est-ce
que vous allez nous proposer?
Je vais vous proposer deux sujets que je prends, bien sûr, dans le journal L'Itinéraire. Et cette fois-ci, c'est de décembre 2017. Le premier sera une entrevue avec Valérie Plante et des vœux qu'elle souhaite à L'Itinéraire. Et le deuxième sujet sera écrit par Yannick Marcil, et c'est la marchandisation de la misère humaine. C'est un peu triste avant Noël, mais c'est tellement présent que ça me semble intéressant d'y jeter un coup d'œil.
Sûrement.
Un regard.
Oui, Noël, c'est aussi ça.
Oui, c'est ça.
Alors moi, je vais vous parler toujours dans la revue Protégez-vous, imaginez-vous qu'ils ont testé des produits. Et je vais vous présenter les meilleurs produits de l'année.
Oui.
Oui, dans différents
domaines. Oui.
Domaines.
Ah, d'accord.
Beau programme.
Oui,
c'est
un robot culinaire.
On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit, là, tout ça. Là.
C'est ça.
La panoplie. Bon. Voilà, pour ma part, je vais vous parler des beaux Noël de Gilles Vigneault, et je vais vous parler d'une journaliste qui a décidé, oh malheur, de priver ses deux ados d'écran pendant une semaine. Alors, plus d'ordinateurs, plus de tablettes pendant une semaine. Comment ont-ils survécu?
On va le savoir.
Est-ce qu'ils ont survécu?
Alors, Franceline.
Oui, donc voilà cette entrevue avec Valérie Plante. Et le thème particulièrement est celui de nouveaux logements sociaux d'ici 2 ans. Alors, c'est une entrevue qu'elle a donnée avec Laurent Soumy, qui est responsable de l'accompagnement des participants au journal L'Itinéraire. Alors, c'est écrit ceci. « Apporter la truelle et le mortier. S'il n'en tient qu'à elle, donc la mairesse, la nouvelle mairesse donc de Montréal, Valérie Plante, entreprendra la construction de nouveaux logements sociaux dès 2019. Au cours d'une entrevue exclusive qu'elle a donnée à L'Itinéraire, elle a réitéré son engagement à soutenir les organismes qui luttent contre la précarité, la pauvreté et l'itinérance. » Le 15 novembre dernier, moins de 24 heures avant son assermentation, la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, était encore toute remuée par la confiance que venaient de lui accorder les électeurs montréalais. Elle dit « Je suis vraiment très fière et très honorée de cette confiance. C'est un honneur d'être la première femme élue à la mairie de Montréal. Ça se passe bien, même si les choses commencent en Lyon. La transition va prendre un certain temps, dit-elle. » Bien qu'elle ait été désignée par 51,4% des électeurs, la nouvelle mairesse n'a eu accès au dossier de la ville qu'après son assermentation. Je n'ai pu consulter que quelques documents. Après l'assermentation, je vais me plonger dans l'étude des dossiers. On va maintenant pouvoir aller au fond des choses, dit-elle. Comment interprète-t-elle l'appui de 243 594 électeurs ? Je pense, dit-elle encore, que le message des gens est qu'ils en ont assez du cynisme en politique. Les élections ne sont pas seulement une formalité. Il ne faut jamais prendre les gens pour acquis. Les Montréalais ont eu envie d'un changement de style. Mon style est très différent de mon adversaire. Ils ont choisi une administration qui propose des solutions à leurs problèmes quotidiens. Parmi tous les engagements pris pour lutter contre la pauvreté, la précarité et l'habitation, c'est le logement social qui constituera sa première priorité. Plus de 25 000 personnes sont en attente d'un logement social et abordable, a-t-elle insisté. L'accès à un toit est un droit fondamental. Un logement décent, c'est souvent le dernier rempart contre l'itinérance. C'est par là qu'on va commencer. Nous sommes déjà en discussion avec le gouvernement du Québec, a-t-elle ajouté. D'ici les 2 prochaines années, je veux qu'on ait commencé à bâtir de nouveaux logements. Signe de sa détermination, la nouvelle mairesse a confié le dossier de l'habitation à une ingénieure de formation, Magda Popé-Anou, qu'elle a aussi nommée vice-présidente au comité exécutif de la ville. Élue une première fois en 2013, Madame Popé-Anou a été présidente du parti Projet Montréal durant 3 ans. Cette conseillère du district Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce aura pour mandat de piloter le programme d'accès au logement, de veiller à ce que 20% des grands projets immobiliers soient réservés au logement social et de superviser la construction du premier quartier familial sur le terrain de l'ancien hippodrome. La mairesse s'est déjà engagée à ce que plus de 60% de ces 8100 futurs logements comportent au moins 3 chambres à coucher pour attirer les familles à Montréal. La nouvelle mairesse entend aussi revoir le plan d'action contre l'itinérance qu'avait élaboré l'ancienne administration. Le jour de notre entrevue, dit Laurent Soumy, les autorités ont démantelé un campement improvisé par des itinérants au début de l'été sur le terrain vague situé juste devant les bureaux du journal L'Itinéraire. À la veille des temps froids, le sort de ces infortunés semblait avoir touché Madame Plante. Il faut agir vite, a-t-elle insisté. Dès cet hiver, il faut installer des haltes de chaleur où les sans-abri peuvent se réchauffer et revoir le nombre de places disponibles dans les ressources d'hébergement. Il faut aussi trouver des solutions pour ceux d'entre eux qui sont attachés à leur animal de compagnie. Nous allons continuer à soutenir les organismes communautaires qui luttent contre l'itinérance. Madame Plante compte aussi revoir le rôle du protecteur des itinérants, M. Serge Larrault, nommé par l'administration précédente. L'idée d'un tel poste est intéressante, a-t-elle expliqué. Il faut voir comment il peut contribuer de façon concrète et efficace à conseiller les élus. J'ai hâte de rencontrer M. Larrault. Il faut voir à quoi sert ce poste et, si nécessaire, comment l'améliorer. Entre-temps, Madame Plante a confié la responsabilité politique du dossier de l'itinérance à la conseillère municipale de Villeray, Rosanie Filato, une avocate en droit du travail. Avec sa collègue de l'habitation, Madame Filato devra concrétiser la promesse de construire 300 unités de logement ou de transition par an et pendant 10 ans pour les populations vulnérables. Madame Filato travaillera aussi de concert avec Nathalie Goulet, responsable politique de la sécurité publique et conseillère d'ANSIC. Politologue de formation, Madame Goulet a œuvré longtemps comme travailleuse sociale et directrice générale de Radio Centre-Ville. Les deux femmes devront veiller à la création d'unités mobiles d'intervention et de la plateforme téléphonique 211. Elles devront aussi garder un œil sur la formation des policiers et le bilan actuel du service de police de Montréal sur le profilage social. Dans toutes les matières liées de près ou de loin à l'itinérance, ce seront donc 4 femmes, incluant la mairesse, qui assureront la responsabilité politique du dossier. Alors, en cette veille du temps des fêtes, une période souvent plus triste que des coutumes pour les itinérants, Madame Plante souhaite que personne ne se retrouve en situation de vulnérabilité. Les personnes qui sont dans la rue ou qui vont à la banque alimentaire, ce n'est pas par choix. Il faut que la société soit là pour les aider. Je leur souhaite du courage et je veux qu'elles sachent que je soutiendrai les organismes qui sont là pour les aider. Au Camelot de l'Itinéraire, avec qui elle entretient une relation particulière, la nouvelle mairesse souhaite de joyeuses fêtes. Je les aime beaucoup et je leur dis bravo. Vous faites un travail exceptionnel, vous mettez du soleil dans la vie des passants. Mmh. Voilà donc cette entrevue réalisée par Laurent Soumy avec Valérie Plante, la nouvelle mairesse de Montréal. Et c'est dans le journal L'Itinéraire du 15 décembre 2017.
Ah, il y a une bonne volonté. Hein,
oui, absolument, absolument.
Essayer de trouver des solutions aux problèmes. Nous sommes de retour. J'ai devant moi la sélection de Reader's Digest du mois de décembre. Et c'est Christian Larsen qui a rencontré Gilles Vigneault et lui a demandé de lui parler de ses beaux Noëls. Ses beaux Noëls de Gilles Vigneault. À quoi ressemblaient les Noëls de ton enfance? Ils ne ressemblaient à rien de ce qu'on voit aujourd'hui. On n'avait pas de cadeaux, pas de jouets. Pour en avoir, on devait plutôt les fabriquer soi-même. Je me suis même ainsi fabriqué un bateau. Ma mère m'a dit quand j'avais 7 ans, je pense qu'il a 89 chez le Vigneault.
Oui, sûrement, oui.
Ma mère m'a dit quand j'avais 7 ans, « Je sais que tu aimes écrire et que tu as besoin de crayons, de cahiers, mais il nous faudrait 50 cents pour les acheter et on ne les a pas. » Monsieur Placide, mon parrain, venait nous voir chaque année à Noël et habituellement, il me donnait une pomme. Ce Noël-là, il m'a donné un 50 cents. Un vrai miracle. Cela a permis à maman de m'acheter des cahiers et des crayons. Le roi George V figurait sur ce 50 cents de 1921. Plus tard, quand je me suis mis à collectionner des sous, je n'avais pas oublié la face, la couleur et la date du 50 cents. Ces pièces canadiennes de 1921 sont très rares et valent aujourd'hui une petite fortune. Apparemment, Il n'en reste que quelques-unes. Je crois qu'il fait aussi la collection de calendriers, Jules Vigneault, en plus, de pièces de monnaie. À quoi ressemblait ton village à Noël? À tous les villages de la Côte-Nord. Des maisons tapies sous la neige, un lourd silence rompu par les grelots des carrioles tirées par des attelages de chiens. Un vrai tableau de Jean-Paul Lemieux. On décorait en dedans, mais pas au dehors. Les arbres de Noël étaient rares, les gens avaient la foi et ils assistaient à la messe de minuit. Les réjouissances et les rencontres des fêtes leur permettaient d'oublier la grisaille et la monotonie des jours. Noël, pour toi, c'est quoi? Il y a d'abord le solstice d'hiver, le 21 décembre. Noël, pour moi, c'est en premier lieu la fête des enfants, mais c'est aussi celle de la nativité. Le mystère de Noël en est un de pauvreté et en fait, nous l'avons transformé en une réalité matérielle, souvent éloignée de la simplicité de l'Évangile. Ton plus beau souvenir de Noël, c'est la fois où je suis redescendu à Natashquan après 35 ans d'absence à Noël. J'ai dû braver 2 ou 3 tempêtes avant d'arriver à destination et à temps pour assister à la messe de minuit. J'ai revu à l'église des gars avec qui j'avais fréquenté la petite école. On était tous émus de se voir la veille de Noël. J'ai chanté du haut du jubé, le minuit chrétien, et j'ai célébré Noël avec ma parenté du village. Ce fut pour moi une sorte de ressourcement, de retour à mes racines. Est-ce que tu fais un arbre de Noël? Chaque année, je fais un arbre de Noël à l'intérieur. Je le décore le 21 décembre à l'occasion du solstice d'hiver. J'y accroche une grande quantité de petites lumières. Je pense chaque fois à ce beau poème de Rimbaud. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. J'aimerais en faire autant si je le pouvais, rejoindre le plus de monde possible pour leur dire combien la vie est précieuse partout. La fièvre commerciale semble avoir occulté le vrai sens de Noël. On n'a pas réussi cependant à en vider entièrement le sens. Prends par exemple ce besoin de revenir aux féeries de l'enfance. Il traduit chez beaucoup un désir de réveiller le souvenir d'une foi cachée. La paille de la crèche, l'étoile de Bethléem, les hommes qui scrutent les étoiles. Plusieurs croient en la naissance de Jésus et tiennent à la célébrer avec une joyeuse simplicité. Les autres, pour qui c'est une fête ordinaire, en profitent pour partager des agapes et se rencontrer en famille. Leurs réjouissances deviennent quelque chose de sacré, dès lors que l'amour et le don s'y marient. Y a-t-il dans ta famille des rituels de Noël? Il y a d'abord la messe de minuit. Les enfants y assistent avec nous et on y chante tous les vieux cantiques de Noël. Après la messe, on s'attable au bonheur pour savourer un joyeux réveillon. Ensuite, on déballe les cadeaux des enfants. Il y a quelques années, j'ai reproduit une maquette de 1,5 pied sur 1 pied. Ce sont des mesures que je comprends bien. De la maison de mon père. J'y ai pratiqué, c'est une réplique de la maison de son père, j'y ai pratiqué dans le toit une fente et chacun peut y insérer de la monnaie, des dollars, qu'on donne ensuite à un organisme de bienfaisance. Depuis leur tout jeune âge, j'ai essayé de faire naître dans le cœur de mes enfants le désir d'offrir de vrais cadeaux, qui sont d'abord des cadeaux de vie. Par exemple, donner un coup de fil à quelqu'un qui est seul, ranimer l'espérance chez une personne découragée, donner du temps à celui qui se sent inutile, visiter des malades. En fait, compte, je pense que le vrai sens de Noël, c'est d'apporter de l'espoir et de la paix à ceux qui sont blessés, malheureux ou seuls, et qui, d'entre nous, n'en a pas besoin. Alors, je vous ai lu des extraits de l'entrevue que Gilles Vigneault a donnée à Christian Larsen et qui paraît dans le Sélection du Reader's Digest du mois de décembre.
Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, cargue ta voile, aussi la mienne. Fais comme si nous en étions toujours les capitaines. Nous en étions toujours les capitaines. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile distordée, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai. Si les trésors dont nous avions la clé, le plan, la carte et la belle aventure n'étaient que rêves et qu'imposture. Évoque-les, évoque-les par des drapeaux de pluie dans les matures. Par des drapeaux de pluie dans les matures. Profond comme au large de l'île, doux comme une aile distorlée, loin comme l'Angleterre, je me fais facteur ou jardinier, ne me viens plus parler de contrebande, mais si tu veux que je me pende au grand hunier, raconte-moi que tu as vu l'Irlande, raconte-moi que tu as vu l'Irlande, profond comme au large de l'île. Doux comme une aile distorlée, loin comme l'Angleterre, je t'aimerai, je t'aimerai.
Monique Lérac qui vient de nous chanter « Si les bateaux ».
Et on poursuit avec Serge.
Oui. Et ça commence ainsi. Et les champions sont...
Ah, qui?
Oui, dans la revue Protégez-vous, les meilleurs produits de l'année.
Ah, quoi?
Un article écrit par Louise Gendron, journaliste, et Samuel Lambert-Milo, directeur de la recherche et de l'innovation. Des réfrigérateurs au craquelin, en passant par les montres d'entraînement, nous avons testé près de 2000 produits en 2017. Rien de moins. Et voici une sélection de ceux qui ont le mieux réussi nos épreuves. Acheter mieux pour acheter moins. Tels sont les deux grands objectifs du consommateur futé. Pour vous appuyer dans cette quête, nos laboratoires et nos équipes de testeurs se sont attardés cette année à 35 types de produits différents. Près de 150 gros électroménagers, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle et frigo ont été mis à rude épreuve. Nous avons aussi analysé les performances des barbecues, tout comme celles des petits appareils de cuisine, par exemple les robots culinaires et les mélangeurs, les batteurs sur socle et les mijoteuses. Les humidificateurs et les déshumidificateurs ont également fait l'objet de tests. Il y a bien sûr l'électronique, qui prend de plus en plus de place dans nos vies et dans nos budgets. Qu'il s'agisse de la tablette ou du service de vidéo sur demande, de l'appareil photo ou de la barre de son, nos techniciens ont évalué cette année 473 produits dans 11 catégories différentes. C'est bon, hein? Bien sûr, nous n'avons pas oublié les petits plaisirs de la vie, ainsi jeux de société, vin rosé, pizza... Gin québécois et tonique ont aussi été soumis à nos testeurs. Et pour chaque catégorie, nous vous présentons le produit que nous considérons comme le meilleur achat. Parfois, il s'agit de celui qui a obtenu la meilleure cote de performance, mais bien souvent, c'est aussi celui qui représente le meilleur rapport qualité-prix. Alors, nous allons commencer par la fin de cet article, ici. OK. Par les craquelins. Ben rien oui. De moins. Ben, c'est le temps des fêtes. Hein? Puis on va servir des craquelins comme entrée. En fait, oui, bon, bon, comme ça. Et vous savez que les craquelins, c'est pas bon. Il y a eu. On a testé à peu près 252 sortes de craquelins, puis il n'y en a pas beaucoup. C'est bon. L'huile de palme. Là. Alors, le meilleur craquelin.
Sans sel.
Quand les invités s'annoncent, il faut sortir l'apéro et aider hors d'œuvre. Alors, les triscuits. Prenez ça en note, originaux représentent un bon choix nutritionnel et leur format est parfait pour créer toutes sortes de canapés. Donc, les triscuits originaux, c'est fait par Christy. C'est bon? Ouais, c'est ça.
Et ça revient à 25 cents pour 4 par portion, ce qui égale 4 craquelins. 25 cents. C'est bon?
C'est des gros craquelins.
Maintenant, vous avez un peu plus faim? Allons-y avec la pizza. Ah, la pizza surgelée, c'est ma préférée également, le docteur Oetker.
Ah oui.
O-E-T-K-E-R. Alors, envie d'un petit congé de popote entre Noël et le jour de l'an? Cette pizza a été parmi les plus appréciées de nos chefs goûteurs. C'est quelle pizza? Eh bien, c'est Ristorante croûte ultra mince, champignons grillés et ail. Mm-hmm. Dotée d'une croûte jugée un peu mince, elle dévoile néanmoins une garniture savoureuse, notamment un goût de champignons bien présent. Et ce produit s'avère un bon choix sur le plan nutritionnel. Alors maintenant, vous voulez arroser ça, cette pizza et ces craquelins. Vous avez le goût d'un vin rosé. Bon, c'est le temps des fêtes, le temps des cadeaux. Le meilleur, avec 85%, le meilleur choix, c'est Charles et Charles. Pas compliqué, hein? Charles et Charles. Et ça coûte 17 $. Rien de tel qu'un petit rosé pour se donner une illusion d'été en plein cœur de l'hiver. Et celui-là a obtenu la meilleure note à notre test. Selon nos juges, il a un nez délicat, floral et épicé. Il est frais et élégant, avec une belle longueur en bouche. En regardant la neige tomber, ce sera encore meilleur. C'est beau, hein? Donc, Charles et Charles. Vous voulez y aller un peu plus fort, maintenant? Un petit rhume qui s'annonce à l'horizon, eh bien, le gin. Oh! Voilà le grand gagnant de notre test de gin québécois. Il est produit à Saint-Arsène, près de Rivière-du-Loup, où est cueilli le tuya, l'ingrédient clé de sa recette. Les juges ont apprécié l'harmonie des touches florales, épicées et poivrées, ainsi que la présence du genièvre et du cèdre. Ils ont trouvé ce gin intense, au nez et en bouche, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de gin puissant, le plus apprécié en gin tonic. Alors, je m'aperçois qu'on prend des notes ici, en studio, c'est merveilleux. Alors, ça s'appelle le gin tuya. Je parle pas pour rien, c'est merveilleux. C'est le fun.
À Saint-Arsène que c'est fait.
Maintenant, alors là, imaginez-vous donc que vous avez utilisé des assiettes, hein, des ustensiles, des verres, pour servir ce que je vous ai dit.
Oui.
Vous voulez les laver maintenant?
Oui.
Hein? Bon. Et vous n'êtes pas marié, donc vous n'avez personne pour faire la vaisselle. Alors donc, il y a un merveilleux lave-vaisselle. Bon. Ce lave-vaisselle, le seul de nos meilleurs choix, qui se détaille sous la barre des 1 000 $ quand même, hein, fournit une bien meilleure performance globale que bien des appareils vendus parfois jusqu'à 3 000 $. Il possède plusieurs composantes réglables, paniers, tiges, etc., ainsi que des commandes intégrées, c'est-à-dire non accessibles lorsque la porte est fermée. Pratique si on a de jeunes enfants curieux à la maison. Ce lave-vaisselle, c'est de marque Bosch, Assenta. Et là, il y a le SHX3. Je vous en passe, là, mais c'est le Bosch Assenta lave-vaisselle qui se détaille autour de 750 $. 750 $. Et puis, faut faire à manger, hein? Faut faire à manger. Donc, la cuisinière, la meilleure, justement, là. Cette cuisinière à induction est le meilleur produit de notre test et fait figure de bon rapport qualité-prix. Que demander de plus? La surface de cuisson comprend 5 éléments chauffants très performants et le four maintient une température uniforme et son utilisation au quotidien est agréable. C'est la General Electric Profile.
Ah oui?
Yes. Hey, mais son prix est Profile aussi.
Ah oui?
Oui, mais 1 900 $.
Pardon.
C'est quelque chose pour un poêle, hein?
Je m'excuse.
Oh, mais ça a l'air que c'est le meilleur. Rapport qualité-prix, s'il vous dure 30 ans, alors ça va. Hein?
Oh, oh, oh.
Mais Un réfrigérateur avec ça, de nos jours, on n'en a pas besoin de réfrigérateur parce qu'il fait très froid, là. Mais quand il va faire un peu plus chaud, vous pouvez en acheter un, et c'est lequel le meilleur, doté d'un congélateur inférieur à tiroir et d'une porte française à deux battants. Ce modèle constitue un bon rapport qualité-prix dans la catégorie des réfrigérateurs de 33 pouces de largeur et peu bruyant. L'appareil maintient bien la température du réfrigérateur et du congélateur et la configuration des tablettes permet de maximiser l'espace et facilite c'est ça, la gestion du contenu. Alors, ça a été testé, ça, et c'est le meilleur choix. C'est le General Electric.
Ouais. Est-ce qu'il est très cher?
C'est le petit frère de la cuisinière, qui est à 1900. Lui est à 1550, et il est blanc. Moins de trouble pour laver, ça, blanc.
Oui.
En stainless, ça. Oh, my God. C'est quelque chose.
Oui, bon.
Et puis là, avez-vous besoin d'une laveuse?
Oui.
On va finir par là, OK? Oui, avec la laveuse, Electrolux, c'est bon? Alors, cette laveuse à chargement frontal de grande capacité a obtenu la meilleure note globale à notre test, 12 pour les tissus. Elle procure une très bonne efficacité de lavage, tant au cycle normal que délicat, tout en restant très bien et en laissant un peu de résidus de savon. Alors, de plus, elle est peu bruyante et très facile à utiliser. C'est la Electrolux, oui, 1 200 $. Et si vous achetez le savon de la semaine dernière... dont je vous ai parlé, oui. Le Kirkland, là.
Ah oui.
Oui. Alors là.
Ah, je m'en souviens.
Ah, ça va être merveilleux. Vous allez passer un Noël des plus propres.
Nous vous revenons après cette pause.
Si la France a ses rillettes, son foie gras, ses crêpes Suzette, la Belgique a ses gaufrettes et Milan son escalope, Portugal a ses sardines, Toronto sa margarine, l'Espagne a ses mandarines et l'anglais son mutton chop. Mais nous, on fait exception au diable importation.
À part la patate,
à part la patate,
la patate à part,
la patate à part,
le ragoût de pâte,
le ragoût de pâte,
la soupe au pois, qu'est-ce qu'on dévore? Oh, mais la tour, la tourtière, qu'on savoure, vous, tout entière, quand c'est fête, ménagère, fête, les tourtières. De la bouillabaisse que font cuire les Marseillaises, on tourne la mayonnaise du Tonkin jusqu'au Chili, la choucroute est allemande, le fromage de Hollande, chop suey garni d'amandes, tout ça c'est des chinoiseries, mais nous on est des gourmets, on aime les bons mets.
À part le guerton,
à part le guerton,
qui est guère dans le thon,
qui est guère dans le thon,
boudons le boudin,
boudons le boudin,
il faut manger quand on a faim. Oh, mais la tour, la tourtière, qu'on savoure, vous, tout entière. Et ça vaut, pas vous plaire, je trouve ça vaut, les tourtières. Si vous voulez la recette, c'est facile comme une omelette. Vous mettez dans une assiette des machins, mais pas trop gros. Ajoutez des petites affaires, videz-y toute la salière. Embrassez la cuisinière et placez dans le fourneau. Mais pour faire du fla-fla, faut pas s'arrêter là.
Pour casser le jeûne,
il faut le jeûne,
c'est quoi?
Le jeûne, c'est quoi?
Pour relever ce plat de choix, quoi? Tout d'abord, la dent en or de grand-père, de la part de tante Aurore, c'est jarretière. Pour pas faire de peine encore au beau-père, ajoutez la couenne de lard, la belle-mère. À Noël, que mange-t-on? De la tourtière. Jour de l'an, que mange-t-on? De la tourtière. Et au roi, pour le gueuleton? De la tourtière. De la panse jusqu'au menton. De la tour.
De la tour.
Tour lourd.
Tour lourd.
De la tour lourd, lourd. De la tourtière.
Le trio lyrique qui vient de nous chanter La tourtière.
Ah ben oui, c'était le trio lyrique, hein. J'en ai 5.
C'était quoi le titre déjà?
La tourtière.
Ça m'a donné le
bon,
goût. Hein.
Alors, nous sommes donc de retour. Et nous sommes donc de retour avec Franceline Serge et Roger Roy. Franceline va reprendre le micro pour nous parler cette fois de quoi?
Oh oui, je vais parler d'une chose un peu triste. La marchandisation de la misère humaine.
Oh là là.
Et donc, c'est une réflexion de Yannick Marcil et que j'ai trouvée intéressante. Et je vous la livre. Donc, Montréal, 1822. On remonte là. Depuis 20 ans, donc, en 1822, la population de la ville a doublé. Cette croissance démographique importante et le début de l'urbanisation ont créé un nouveau phénomène, la montée de la mendicité. Le mendiant, qu'on accueillait auparavant chez soi sur le banc de Quêteux, on le connaissait. Il faisait partie de la communauté. L'urbanisation l'a rendu anonyme. Alors, on le craint, ne le connaissant pas. Présente-t-il un danger? Est-il un criminel, un fou furieux qui pourrait faire le mal? Ces craintes ont poussé les autorités à mettre en place en 1822 des permis de mendicité. On accordait la permission de mendier à la condition de répondre à certains critères et d'avoir un bon comportement. Ça, c'est 1822. Mais Montréal 2017, une entreprise montréalaise de haute technologie, Connect & Go, a annoncé qu'elle produirait des bracelets électroniques pour les itinérants. Depuis 5 ans, des festivals un peu partout dans le monde utilisent ces bracelets. Ces bracelets sont connectés à des serveurs informatiques et on peut y enregistrer des informations personnelles, par exemple reliées à sa condition médicale. Ils sont également utilisés pour payer les commerçants sur les sites des festivals pour s'acheter une bière ou un souvenir. Conscient que nous transportons de moins en moins d'argent comptant sur nous, Rémi Richard, fondateur d'une autre entreprise technologique chronométrique, a eu l'idée de proposer à Connect & Go la mise en marché d'un bracelet pour les personnes itinérantes de Montréal. Est-ce une bonne idée? Selon ce que rapportait le magazine Infopress, ces bracelets permettraient d'enregistrer sur une puce électronique contenant le profil de la personne qui le détiendrait, de l'information sur son groupe sanguin, ses allergies, ses antécédents médicaux ou des contacts d'urgence. De plus, et là réside l'intérêt de cette technologie, il permettra de recevoir des dons en argent par transfert électronique d'un téléphone intelligent au bracelet, sans contact pour les passants qui désireraient le faire, mais ne disposeraient pas d'argent liquide sur eux. Par la suite, ces dons seraient transformés en monnaie virtuelle, échangeable, contre des produits prédéfinis, par exemple dans des dépanneurs, des restaurants ou des friperies, voire même dans les lieux d'hébergement pour personnes itinérantes. Cet argent virtuel, destiné à acheter des produits prédéfinis, n'est donc pas l'équivalent des pièces qui se retrouvent aujourd'hui dans le fond des poches des itinérants. Il y a fort à parier, ou du moins à craindre, qu'on décidera avec paternalisme quels seront les produits adéquats et responsables qui pourront être achetés à l'aide du bracelet. Pas d'alcool, on s'en doute, mais qui sait, pas de fast-food, un montant réservé à l'achat de fruits, et quoi encore. Il est évident qu'une entreprise capitaliste cherchera à renvoyer une bonne image d'elle-même et donc de montrer que ces bracelets sont utilisés pour le bien des itinérants. Alors, si cette vision se concrétise, il y aura donc dans les rues de Montréal des itinérants responsables qui arborent leurs petits bracelets afin de les aider en cas d'urgence grâce à leur profil personnel enregistré sur la puce et qui n'utiliseront les dons que pour consommer des produits de manière responsable. Et il y aura les autres, les irresponsables, les potentiellement dangereux, qui s'achètent de la bière ou de la drogue avec l'argent qu'ils quittent. En 1822, c'est ce que permettaient des permis de mendicité. L'historienne Huguette Lapointe-Roy, dans le livre « Charité bien ordonnée » paru chez Boréal en 1987, explique qu'il permettait aux passants de distinguer les vrais pauvres, autorisés à quêter des profiteurs. Le bracelet offrirait non seulement la possibilité de faire une semblable distinction, mais qui sait ce que l'on pourrait faire des données accumulées au fil des temps. Un profilage sociologique des bons et des mauvais itinérants. Des quartiers où on est plus ou moins généreux. Accorder un prix du meilleur quêteux du mois. Cela ouvre la porte à de dangereuses dérives et marchandise encore une fois la misère humaine par la force de la technologie numérique. Alors à suivre, hein, parce qu'effectivement on en a parlé, je ne sais pas aujourd'hui où ça en est, mais je trouve que c'est une réflexion importante à considérer.
Ouais, parce que Big Brother veille.
Voilà. Hein. Ouais. Et donc c'est dans le journal L'Itinéraire, écrit par Yannick Marcil, qui est donc cet économiste indépendant qui écrit dans ce journal.
Intéressant, je n'en avais jamais entendu parler.
Ah si, oui, je vais...
Notre semaine sans écran de tablette ou d'ordinateur. C'est la journaliste, comment s'appelle-t-elle, qui a fait ce test, c'est Catherine Dubé. Mes fils risquent-ils de glisser sur la pente de la dépendance aux écrans? Âgés de 12 et 15 ans, ils passent chacun environ 30 heures par semaine à mener d'épiques combats virtuels contre des joueurs qui vivent à l'autre bout de la planète, ou à regarder compulsivement des vidéos sur YouTube. Dès qu'ils ont un instant de libre, c'est vers la tablette ou l'ordinateur qu'ils tendent la main. Les écrans ne sont pas un divertissement parmi d'autres, ils sont des objets de désir. Peter Wybrow, directeur de l'Institut Semelle des neurosciences et du comportement humain à l'Université de Californie à Los Angeles, n'hésite pas à parler de « cocaïne électronique » pour décrire l'effet sur le cerveau de ces appareils connectés à Internet, qu'il s'agisse des jeux en ligne des ados ou des téléphones intelligents de leurs parents. J'ai privé mes enfants de leur drogue numérique pendant une semaine avec leur accord, curieuse de savoir s'ils pourraient s'en passer. J'ai moi aussi mis de côté les écrans en dehors des heures de travail. Le premier matin, un samedi, mes ados étaient complètement désœuvrés. Après quelques jérémiades, Louis, le plus jeune, a fini par aller chercher du carton et le pistolet à colle pour réaliser un bricolage qui est rapidement tombé à l'eau. Si on pouvait trouver des idées sur YouTube, au moins a-t-il soupiré. Voilà, sa génération n'a pas connu la vie sans Internet, ce qui a ses bons et ses mauvais côtés. Les jeunes n'ont jamais été aussi en sécurité physiquement car ils passent leur temps libre en ligne plutôt qu'à sortir, à boire, à fumer, et avoir des relations sexuelles comme le faisaient les générations précédentes, selon les données analysées par Gene Twenge, professeur de psychologie à l'Université d'État de San Diego. « Mais ils se sentent plus seuls qu'avant », s'inquiète-t-elle dans un article intitulé « Les téléphones intelligents ont-ils bousillé une génération ?» publié récemment dans le magazine The Atlantic. Vertement critiqué pour son ton alarmiste, cet article fait tout de même réfléchir. Contrairement à beaucoup de leurs amis, mes enfants n'ont pas encore de téléphone cellulaire. Je sais, je ne pourrai pas plus résister très longtemps. Ce qui a sans doute facilité notre semaine sans écran. En cette première matinée, j'avoue que j'ai moi-même beaucoup de mal à réprimer mon envie de vérifier si j'ai reçu des notifications, des textos, des appels. On envoie par tous ces gens-là, dans les ordinateurs, dans les ascenseurs, dans les couloirs d'ici, de la vue des voies, dans la rue. Après le bricolage avorté, Louis a enfin une idée qui l'emballe, aller faire de la planche à roulettes dans un centre situé à quelques kilomètres de la maison. Génial. Mon premier réflexe, sortir mon téléphone pour connaître les heures d'ouverture, les tarifs et le trajet pour s'y rendre. J'hésite un instant. Comment on faisait déjà avant d'avoir ces bidules électroniques? Je pourrais téléphoner, mais je n'ai plus d'annuaire. Trouver une carte du réseau de transport de la ville, pouf, tant pis. Il n'est même pas midi, jour 1 du défi, et j'enfreins déjà la règle. Heureusement parce que je découvre que le centre est fermé. Il faut trouver autre chose. Peu à peu, mes fistons apprivoisent l'ennui. Louis fait tourner le globe terrestre, auquel il n'a pas touché depuis des années, et cherche le méridien de Greenwich. Il propose de cuisiner des biscuits et s'exécute. Son grand frère Victor va chercher des matériaux de construction pour un projet de rénovation qu'il réalise avec son père. Il va ensuite faire du vélo avec un ami. Il y a peut-être de l'espoir. Au fil des jours, la détox s'avère efficace. Victor et Louis sont plus enthousiastes, me semble-t-il. Ils voient davantage leurs amis. Ils rigolent ensemble et me jouent des tours. Ils lisent des magazines. À l'heure du souper, ils me racontent leur journée. On dirait que c'est plus intéressant que d'habitude de faire mes devoirs, m'annonce Victor le mardi soir. Ça te fait quelque chose à faire, se moque son frère. Victor acquiesce en précisant que c'est aussi pour le défi intellectuel. J'aime ça, ce qu'on étudie en sciences cette année, le tableau périodique, la composition de l'atome. Je crois rêver. Ironie du sort, c'est l'école qui forcera Louis à briser la règle de la semaine sans écran. Il doit préparer une présentation PowerPoint. Pour un exposé oral dans quelques jours, il est 19h, la bibliothèque municipale est fermée. Je lui prête mon ordinateur pour 2 heures. Au cours de cette détox, je n'ai pris Victor en flagrant délit qu'une seule fois, en train de jouer à Clash Royale. Plus tard, c'est lui qui m'a pincé au moment où je répondais à des textos, et 2 fois plutôt qu'une. Cela m'a fait penser à la conclusion d'un article publié dans le magazine en ligne J-Store, J-S-T-O-R, Daily, en réponse à celui de The Atlantic. Au lieu de s'inquiéter du temps passé sur les écrans par les ados, il faudrait peut-être se préoccuper des parents qui s'intéressent davantage à leurs appareils électroniques qu'à leurs enfants. Et si on prenait le temps d'en parler, c'est Catherine Dubé qui signe ce texte dans l'actualité du mois de décembre, notre semaine sans écran.
Ouais.
Et est-ce que Serge va nous en parler des écrans?
Des écrans.
Ouais, tablettes, ordinateurs.
Non.
Les objets de l'année, non?
Non, je vais vous parler des 45 ans. De Protégez-vous.
Ah!
C'est beau.
Ben, l'histoire, c'est
un
bien.
Un genre de cours d'histoire.
C'est bien, l'histoire.
En 1973, tout était beau. Des rayons de Miracle Mart.
C'est en 67, Serge, non? C'est écrit 73?
Non. Là, on est en 1973. C'est là que Protégez-vous a commencé à nous protéger. Des rayons de Miracle Mart aux robots d'Amazon. La planète consommation a viré sans dessus-dessous au cours des 45 dernières années. Pour le meilleur ou pour le pire, consommateurs et experts se prononcent. Protégez-vous est né en 1973 au moment où le Québécois moyen égayait son bungalow de cendrier sur pied en bois, d'une boule disco dans son sous-sol en stucco et d'électroménager jaune moutarde. Dans le temps, les magasins étaient fermés le dimanche, si bien que toute la famille embarquait le samedi dans la Dodge Aspen, au diable la ceinture de sécurité et le siège de bébé. Et pour faire la commande chez Steinberg, magasiner des ponchos au Woolco et ramasser des ampoules chez Pascal en fantasmant sur les bébelles du catalogue de distribution aux consommateurs.
Ah, tiens.
De cette époque, peu de choses ont survécu, tant l'économie et la technologie ont été chambardées. Quelles conséquences cette transformation extrême a-t-elle eu sur le comportement des consommateurs? Comment ces derniers s'adaptent-ils? Se sentent-ils mieux servis par les commerçants qu'avant? Des innovations leur facilitent-elles la vie? Nous creusons ces questions dans le premier volet d'une série de 3 articles concoctés pour les 45 ans de Protégez-vous, dont l'objectif sera d'explorer la stupéfiante évolution de la consommation depuis le lancement du magazine. Pour l'occasion, nous avons invité 6 Québécois de diverses générations à se prononcer sur les mutations du commerce de détail, magasins en rayon, épicerie, pharmacie, boutique, et à parler de leur approche de la consommation. Nous publions ici le bilan de leur conversation, ponctué de réflexions de spécialistes à l'affût de cette révolution. Plus de bidous, plus de joujoux. Hein, des bidous? 45 ans, c'est une yuctopoussière dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, quand Odette Marcellet, Jean-Paul Lefebvre et Michel Dufour, les participants les plus âgés de notre table ronde, évoquent le paysage de leur enfance, on a l'impression d'un autre monde, un monde où le summum de la technologie se résumait à un téléphone à roulette au cordon toujours entortillé, flanqué au mur de la cuisine, un monde où la famille typique ne possédait ni barbecue ni spa sur sa terrasse et où les fratries s'arrachaient des mains 2 ou 3 jouets. Ce qui les frappe d'abord, et en particulier Michel, un semi-retraité de 57 ans, c'est l'incroyable bonification de l'offre des commerces de détail au cours des dernières décennies. En effet, jamais, comme consommateur, n'a-t-on eu accès à une telle variété de boutiques en fonction des intérêts les plus insolites, ni à autant de choix à l'intérieur d'un même magasin. Les allées sont si longues que ça prend un GPS pour s'y retrouver, dit-il. Autre bouleversement majeur, cette quantité infinie de produits s'accompagne aujourd'hui des moyens financiers qui permettent de se les procurer. Quand j'étais petite, la classe moyenne était pas mal plus pauvre qu'aujourd'hui, raconte Odette, une retraitée de 63 ans qui a grandi à Montréal-Nord. Je me souviens encore du Noël où j'ai reçu un transistor. J'avais d'abord cru à une boîte de chocolat. C'était exceptionnel. Il y a des années où on n'avait rien. En fait, l'abondance est arrivée dans les années 70, quand les femmes ont intégré massivement le marché du travail. Ce deuxième revenu, conjugué à une hausse générale des salaires, a fait exploser le niveau de vie et créé le paradis de la consommation, note Jacques Nantel, spécialiste en marketing et professeur émérite à HEC Montréal. Avant les années 70, les familles engloutissaient des fortunes simplement pour combler leurs besoins de base, remarque quant à lui le sociologue à la retraite Simon Langlois. Pour donner une idée, en 1969, le tiers du budget des ménages était consacré à la nourriture, comparativement à 16 % aujourd'hui. Pas parce que la nourriture coûte désormais moins cher, au contraire, mais parce qu'on a globalement plus d'argent à dépenser et qu'on l'investit ailleurs. Dans le confort de nos maisons, nos loisirs et nos transports, par exemple. Les services Internet et de téléphone cellulaire accaparent aussi une part croissante de nos budgets. Et pour tout le reste, il y a Mastercard. Mais au-delà de l'enrichissement, c'est aussi l'accès facile au crédit survenu en 1968 avec la carte ChargeX, l'ancêtre de la Visa. Qui a permis aux individus de posséder autant. Pour citer Yvon Deschamps dans une célèbre publicité de l'Office de la protection du consommateur en 1976, « T'es écœurant, comme l'argent qu'on n'a pas nous coûte cher. » Puis c'est rendu, c'est ça qui roule le plus, l'argent qu'on n'a pas. Michel se rappelle que quand il était enfant, ses parents ne payaient qu'avec des liasses de 10 ou de 20 $. Par comparaison, mon fils cadet a reçu sa première offre de carte de crédit à 16 ans ou 18 ans alors qu'il étudiait encore. J'étais outré. Ça, c'est le père qui dit ça. Les cadets du groupe, Anne-Marie Taillefer, 30 ans, et Frédéric Giamatti, 27 ans, n'en reviennent pas non plus de l'aisance avec laquelle ils peuvent obtenir du crédit. Je n'ai jamais gagné de gros salaire et pourtant les banques me courent après pour que j'augmente la limite de ma carte de crédit, constate Anne-Marie, qui est propriétaire d'un atelier de couture à Montréal. Il y a même des compagnies qui offrent de prêter des milliers de dollars sans enquête. Alors, on n'attend plus avant d'acheter ce dont on a envie. On est devenu extrêmement impatient. Et au diable les dettes. Je suis d'une génération qui ne veut se priver de rien, dit Frédéric, directeur de compte dans le secteur de la technologie de l'information. J'ai reçu une éducation stricte par rapport au crédit. Et ça m'a rendu très prudent. Mais ce n'est pas le cas de la plupart des jeunes autour de moi. Ils se disent qu'ils vont être endettés jusqu'à leur mort, de toute façon. Alors, pourquoi faire attention? Alors, sitôt qu'un nouvel iPhone sort, ils le commandent. Alors, les priorités ont aussi profondément changé. Si dans leur jeunesse, Jean-Paul, Odette et Michel mettaient sagement de côté leurs sous en vue d'acheter une propriété et de fonder une famille, les plus jeunes n'épousent pas d'emblée ce modèle. J'ai eu beaucoup d'amis qui ne veulent ni maison, ni auto, ni enfant, constate Anne-Marie. Ils préfèrent voyager, s'acheter un chien, s'offrir des expériences fortes. Plus question d'attendre à la retraite pour ça, c'est le règne du YOLO. YOLO. You only live once.
Oui.
Hein?
Oui.
Cette idée qu'il faut profiter de chaque instant et quitte à vivre d'un chèque de paye à l'autre à cause de leurs dépenses et de leurs dettes, comme le font le tiers des travailleurs québécois. Le tiers des travailleurs québécois qui vivent d'un chèque à l'autre. L'avènement d'Internet et de l'automatisation qui nous a habitués à tout obtenir en un battement de cils n'est pas étranger à cette volonté de consommer ici, maintenant, estime Frank Pons, professeur-chercheur en marketing à l'Université Laval. Tout est mis en œuvre pour faciliter les achats, pour que le client se sente sur un petit nuage. Bornes de paiement avec reconnaissance faciale ou reconnaissance d'empreinte digitale à l'essai dans des restaurants et des supermarchés en Chine et en Allemagne, entre autres. Livraison de produits alimentaires et récréatifs en une heure. Top chrono grâce au système Prime Now d'Amazon. Offert dans certaines grandes villes seulement, dont Toronto et Vancouver. Et cet hiver, rapporte le Wall Street Journal, autant d'innovations qui diminuent notre tolérance à l'attente. Ça va d'ailleurs un peu vite au goût de Michel, qui s'ennuie parfois de l'époque où le temps se suspendait le dimanche. Les commerces étaient fermés, on dînait en famille, on jouait avec les cousins. C'était une autre façon de vivre. Ce qui me manque aussi, c'est de désirer longtemps avant d'acquérir. J'ai ramassé chacune des 8 500 $ que m'a coûté ma première voiture, une Honda Accord en 1979. Je le voulais, ce véhicule-là, et je l'ai entretenu. Là, je change d'auto la semaine prochaine. Je suis content, mais c'est pas pareil. Malgré quelques élans de nostalgie, les participants profitent des avancées de la technologie. D'une part parce qu'elles rendent certains produits plus performants, d'autre part parce qu'elles simplifient leur vie et permettent d'économiser du temps, par exemple en donnant la possibilité de comparer les produits et services de divers magasins les deux pieds sur la table à café. Frédéric affirme même tout commander en ligne maintenant, à part la nourriture. Alors j'ai encore besoin de voir en vrai la banane que j'achète. Alors Jean-Paul, 71 ans, retraité du milieu pharmaceutique, est l'un de ceux qui, comme il le dit, exploite avec le plus d'enthousiasme les outils modernes qui sont à la disposition du consommateur. Par exemple, si la publicité ciblée agace la plupart des participants à notre table ronde, ils ont le sentiment d'être suivis à la trace, entre autres, à cause des témoins de connexion cookies sur Internet. Lui, il profite à fond des aubaines personnalisées qu'il reçoit. Et ça, c'est bon, ça. Notamment à l'épicerie Maxi, dont il possède une carte de fidélité. Il a également téléchargé l'application Rebee sur son téléphone intelligent qui regroupe toutes les circulaires en format numérique. Ça, là, si je vois en ligne un chou-fleur à 1 $ au IGA, je le montre à la caisse du Maxi et qui a pour politique d'accoter les prix. Et cette stratégie m'a permis d'économiser 1 500 $ en 3 ans. Pour moi, c'est devenu une religion. Ces innovations font en sorte qu'il se sent mieux servi comme client qu'avant, à l'instar des autres participants. Quoique le département de cuisine de la défunte quincaillerie Pascal me manque, pense-t-il en riant. Alors, hein, c'est quelque chose.
C'est intéressant. Hein. C'est dommage là, qu'on n'ait pas plus de temps.
Oui, ben, écoutez, moi, je vais vous laisser se protéger, vous, et vous pourrez continuer, hein, parce qu'il y aura des articles comme ça pour fêter les 45 ans. Oui. Alors, ça commence des événements marquants dans le commerce de détail.
Oui. Hein,
à partir de 1971, oui. 1973, oui. Et tout ce qui a été marquant jusqu'à aujourd'hui, c'est hallucinant.
C'est vraiment...
Oui, est-ce que j'ai terminé, moi?
Oui, oui, j'ai terminé pour le moment. Oui,
bon,
c'est
alors
ça.
J'arrête. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes.
Nous sommes là, Maurice Bolduc, en régie, Franceline Yeviard, Serge Hamelin, Roger Roy, et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes
et
une très bonne année.
Ben oui, bien sûr.